quelques versets dans l'évangile de Jean, dans Jean au chapitre 6. On va lire un verset, on va le lire dans les deux versions différentes, dans Jean et dans Marc. C'est la réaction des habitants de Nazareth qui ont vu Jésus grandir. Voilà ce qu'ils vont dire. Donc ils l'ont vu enfant, ils l'ont vu adulte. Donc au chapitre 6, verset 42, il disait, « N'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph ? Nous connaissons bien son père et sa mère. Comment peut-il dire maintenant, « Je suis descendu des cieux ?» Et dans Marc, il est dit, « N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Ses sœurs ne vivent-ils pas ici parmi nous ?» Et il y a cette phrase de l'auteur qui rajoute, « Cela les empêchait de croire en lui. » Cela les empêchait de croire en lui. Pourquoi pensez-vous qu'ils avaient de la peine de croire que Jésus était le Fils de Dieu ? Parce que Jésus, à un moment donné, a été au milieu d'eux un enfant qui a grandi dans les rues de Nazareth. A été ce bébé, peut-être qu'ils ont vu pour certains, ce jeune enfant qui a appris à marcher au milieu de ce village, qui s'est déplacé, qui a appris le métier de son père, qui s'est formé, qui a appris le métier de charpentier. Et à un moment donné, cet homme, à une trentaine d'années, a commencé à manifester son ministère, à manifester qui il était, par ses miracles, par sa prédication, et à manifester qu'il était le Fils de Dieu. Et à un moment donné, ils ont dit, mais on le connaît, c'est le fils du village. Comment ça se fait qu'il dit, je suis descendu du ciel ? Il s'était habitué à ce Jésus. Et est-ce que nous, on ne s'est pas un petit peu habitué à cet enfant Jésus dans cette période de Noël ? Est-ce que depuis le temps qu'on fête Noël, qu'on fête les lumières, qu'on fête les cadeaux, les rencontres de famille, et qu'on a tous une crèche chez nous avec ces jolis santons de Provence que nous avons chez nous, et ces jolies crèches qui sont là, toutes les plus différentes les unes que les autres, avec ce petit Jésus qui est là, est-ce qu'on ne sait pas des fois un petit peu, nous qui connaissons qui est cet enfant, et ce qu'il va faire, habitué à ce petit enfant ? Et est-ce que parfois on n'est pas comme ces habitants de Nazareth qui, à un moment donné, ont dit « Mais arrêtez de nous parler de qu'il est descendu du ciel, c'est n'importe quoi, c'est un enfant comme un autre, il est au milieu de nous. » Est-ce que des fois aujourd'hui, la société, quand on leur dit que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est venu mourir pour eux, qu'il est venu changer le monde, donner l'espoir, transformer les choses, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'incrédulité dans ce monde ? Mais non, c'est le petit Jésus qui est dans la crèche. Oh, c'est des histoires religieuses, tout ça, c'est des histoires, c'est la magie de Noël. Non, cet enfant, Dieu. Est-ce qu'on arrive encore à voir que cet enfant est unique dans l'histoire de l'humanité ? Il n'y en a jamais eu avant, et il n'y en aura jamais avant une naissance comme celle-là. C'est absolument miraculeux, divin. Ça vient du ciel. Ce bébé, est-ce qu'on ne s'est pas un peu habitué ? Et est-ce qu'on n'a pas aussi, quelque part, caché un peu Jésus ? On a importé plein de choses, vous savez, dans la fête de Noël. Hein ? Le bœuf et l'âne gris ne sont pas dans la scène qu'on a lue. La notion d'hôtellerie aussi, c'est qu'il n'a pas pu entrer dans un hôtel. Ça n'a rien à voir qu'un hôtel, c'était des maisons d'hôtes un peu. Donc est-ce qu'on n'a pas un petit peu enjolivé le texte et mis l'accent sur d'autres choses que vraiment ce qu'il est vraiment ? Et la société l'a fait encore plus que nous. La société fête Noël, mais vide Noël de son sens. Ça devient une fête vidée de son contenu, sans parler de tout ce qu'on a rajouté, en fait. Le sapin, le Père Noël, les cadeaux. Vous savez que les cadeaux, c'est très tardif, c'est le 19e siècle, qu'il y a eu cette notion de s'offrir de plus en plus des cadeaux. Et est-ce qu'on n'a pas un petit peu oublié qui qui est Jésus ? Qui est cet enfant, véritablement ? Est-ce que le monde et nous-mêmes, nous ne sommes pas habitués à ce qu'il n'est pas ? On n'est plus capable d'entendre qui il est. Et j'aimerais vous parler de ce Jésus, homme et Dieu, de ce fils du charpentier, et vous dire ce qu'il est véritablement venu faire. Revenons au sens profond de Noël. Il n'est pas venu nous donner un jour de congé aujourd'hui, même si c'est très agréable. Il n'est pas venu nous donner, j'allais dire, une occasion de nous réunir en famille. Il n'est pas venu, quelque part, faire qu'on ait une fête extraordinaire, magnifique, dans le monde occidental, principalement d'ailleurs. Non, il est venu faire quelque chose de bien précis. Et je me suis posé la question, pourquoi Dieu a fait naître, pourquoi Dieu est-il né dans une famille de charpentiers ? Je ne sais pas si vous êtes posé cette question. Celui qui était le fils adoptif de Joseph, Joseph le charpentier de Nazareth, est devenu, a appris ce métier avec son père adoptif, a appris ce métier de charpentier, est devenu à son tour un charpentier, c'était son métier. Et je ne crois pas que c'est un hasard si Dieu a fait venir Jésus dans une famille de charpentiers. Je pense que c'est un signe de la part de Dieu qui nous montre de nouveau qu'il était plus qu'un charpentier. C'est vrai qu'on aurait pu dire c'est un charpentier comme un autre, mais ça nous dit quelque chose de plus profond. Comme on voit cet enfant qui est plus qu'un enfant, Jésus le charpentier est plus qu'un charpentier. Et j'aimerais relever trois choses qu'un charpentier fait. Alors il y en aurait beaucoup d'autres, mais je ne vais pas tous les relever. Mais j'aimerais relever trois choses qui nous montrent un peu qui est Jésus au travers de son métier. Alors le charpentier, vous savez, c'est un constructeur, vous êtes d'accord ? Il fait des choses. Et d'ailleurs, quand on dit Jésus était charpentier, à l'époque, c'est un sens beaucoup plus large, hein, et c'est un sens générique, il ne faisait pas que des toits. Hein. Charpentier de l'époque, c'est tout ce qui touche au métier du bois, qui aujourd'hui s'est spécialisé. Hein. Il y a le menuisier, il y a l'ébéniste, le charpentier qui fait les toits. Mais c'était tous les métiers qui touchaient au bois. Donc Jésus a fait des fenêtres, Jésus a fait des portes, Jésus a fait des choses pour le monde paysan, peut-être des charrues, peut-être des jougs pour les animaux. Hein. C'est pour ça qu'il a pu parler de dire « mon joug est doux et léger ». Il a fait ces jougs qu'on met sur les animaux. Tout ce qui touchait au bois, des escaliers, des meubles, voilà. Et cela nous montre quelque chose de la mission de Jésus. Vous savez quoi ? Jésus est venu meubler notre vie. Il est venu remplir notre vie, pour que notre vie ne soit pas vide, mais pour lui donner un sens. Il a apporté tout le nécessaire. Vous savez, il n'y a rien de plus triste qu'une maison magnifique où il n'y a rien dedans. Je ne sais pas pour vous, mais ce qui fait vraiment qu'on s'y sent bien dans une maison, c'est qu'elle est meublée, c'est qu'elle est décorée, c'est que c'est chaleureux. Et il y a tellement de gens qui, aujourd'hui, peuvent fêter Noël, peuvent bien manger, peuvent être dans des belles maisons, peuvent être des bonnes situations, peuvent être avec plein de monde, mais au-dedans, se sentent vides, se sentent seuls, même au milieu du monde. Et bien sûr qu'il y a des situations aussi plus compliquées dans certaines familles. Jésus vient meubler notre vie pour qu'on s'y sente bien. Et vous savez quoi ? Il est le seul qui peut faire ça. C'est le seul charpentier du cœur, celui qui peut meubler notre vie. Et vous savez, un des travaux importants pour un charpentier, c'est le toit. L'assemblage des pièces de bois qui permettent de créer cette charpente pour le toit. Vous connaissez l'expression « il est bien charpentier, charpenté » ? Ça veut dire qu'il est bien constitué, il est bien une ossature puissante, forte. Il y a cette notion dans charpentier, dans le toit, dans faire quelque chose, dans le bois même qui est noble, de quelque chose de solide et de durable. Là aussi, le Seigneur est venu faire cela. Jésus est venu pour construire quelque chose de solide dans nos vies, de durable, quelque chose de costaud. Et Jésus veut mettre un toit sur nos vies, une protection. il veut faire quelque chose de durable et de beau. On dit que le diable est venu pour détruire, le Seigneur, lui, est venu pour construire. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 17, il est dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » D'autres traductions disent « une nouvelle création. » Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. On pourrait dire aussi, dans une autre traduction, ce qui est ancien a disparu, une réalité nouvelle est là. Voilà ce que Jésus fait. Voilà ce que fait le charpentier de Nazareth, qui fait dans nos vies. Il fait des choses nouvelles, des choses que personne ne peut faire. Il fabrique des choses que personne ne peut faire dans nos vies. Il construit un plan pour nos vies, sûr et solide. La deuxième chose que le charpentier fait, c'est qu'il répare. Vous êtes d'accord avec moi ? Un charpentier, ça répare les meubles, ça restaure même. Et il y a bien souvent des tempêtes dans nos vies qui viennent, et qui viennent abîmer, qui viennent, dans le cadre d'un toit, arracher un toit. Et le charpentier vient et il répare. Et quand un meuble aussi est abîmé à cause d'un accident, ou peut-être même pour une raison d'usure, tout simplement, avec le temps, le menuisier ou le charpentier ou l'ébéniste vient réparer, et il vient même restaurer. C'est vrai que nous vivons, et nous l'avons entendu aussi dans les lectures, dans ce que j'ai dit tout à l'heure, dans un monde abîmé. Nos vies, nos parcours, parfois, ne se passent pas si bien que ça. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mais Dieu se plaît à nous restaurer et nous transformer. Ce n'est pas le monde de consommation dans lequel nous sommes aujourd'hui, où quand ça ne sert plus, on jette. On vous jette. On vous a utilisé pour ceci, et après on vous jette. La société d'aujourd'hui. C'est vrai que à l'époque, pour ceux qui se souviennent de la génération bien avant, on avait ces meubles qu'on se transmet de famille en famille. C'était ces meubles solides qui duraient des générations. Aujourd'hui, pour ne pas citer une grande enseigne suédoise, vous montez ces meubles-là une fois, vous déménagez, vous remontez une deuxième fois, et après la troisième fois, vous allez en racheter des nouveaux. Et puis on est aussi dans un monde où on veut du nouveau, et on jette. On jette. Mais Jésus n'est pas comme cela. Il ne jette pas. Il ne nous rejette pas. Il répare. Il restaure avec amour. Un texte de la Bible nous dit qu'il est le réparateur des brèches. Dans Ésaïe, il est dit qu'il ne brise point le roseau cassé et il n'éteint point la mèche qui brûle encore. Même là où c'est abîmé, même là où ça devrait ne plus être dans l'état dans lequel ça devrait être, plus très beau, Jésus ne laisse pas dans cet état-là. Et il restaure. Et on le voit tout au long de sa vie sur terre. Partout, il a touché des vies. Il a marché à travers ses routes de Galilée, au travers de ses petites ruelles, au travers de bien sûr aussi de tout Israël. Il a marché, il est allé faire du bien, réparer des vies. C'est ce que nous dit un verset dans Actes 10, chapitre 10, verset 38. Vous savez aussi comment Jésus a parcouru le pays en faisant le bien, en guérissant tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Il a guéri des aveugles. Il a fait du bien. Il a dit des paroles qui libèrent. Il a sorti des personnes d'oppression démoniaque. Et si on faisait la liste, je pense qu'il y en aurait pour un moment. Et j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui encore, c'est ce qu'il fait. Amen. C'est ce qu'il fait encore aujourd'hui. Il est là pour restaurer des vies. Il est là pour réparer des vies. Réparer des relations brisées. Réparer des cœurs brisés. Réparer des foyers brisés, des relations. Et peut-être si vous êtes venus ce matin pour vous réjouir ensemble de Noël, mais qu'au fond de vos cœurs, il y a quelque chose peut-être qui est là, qui dit, mais il y a quelque chose de brisé. Il y a ça qui me revient. Jésus veut restaurer. Il veut restaurer. Il veut réparer. Il ne veut pas nous laisser dans cet état. Et vous savez quoi ? Quelle que soit la situation, il peut le faire. Rien ne lui est impossible. Rien n'est impossible au charpentier de Nazareth dans nos vies. Parce qu'il est l'unique charpentier qui peut faire cela dans nos vies. Et la troisième chose qu'un charpentier fait, c'est qu'il finit. Il met la couche de finition. D'accord ? C'est important, n'est-ce pas ? Un charpentier consciencieux fait un beau travail de finition. Hein ? Il soigne la touche finale, comme on dit, de tout ce qu'il a fait. Et ça doit être un moment assez joyeux. Vous savez, quand on a fini un meuble, puis qu'on met la touche de laque, ou je ne sais pas, la teinture finale, ce qui va faire aussi le vernis qui va faire briller. Et j'imagine la satisfaction de voir son travail fini. Hein. Je ne sais pas, pour ceux qui travaillent dans certains métiers où on ne voit pas la fin de ce qu'on fait, là, on voit le final, comment c'est. C'est un métier où on peut voir cela, heureusement. Et un bon ouvrier va jusqu'au bout, fait son travail. Les finitions, c'est important, vous êtes d'accord ? En Suisse, hein, on aime bien les choses bien faites. On aime bien les finitions. Et c'est vrai que ça fait partie de notre culture. Hein. Et c'est vrai que si on voit un travail qui est, les finitions ne sont pas bien faites, ce n'est pas fini, eh ben on se dit, bah, c'est un peu bâclé. Un ouvrier un peu... C'est un mauvais ouvrier, on va dire. Pourtant, il a fait déjà le gros du travail, mais les finitions, ça change tout. Alors, Jésus est ce charpentier de nos vies qui va aller jusqu'au bout dans nos vies. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et lui, il va amener l'œuvre qu'il fait dans notre vie à son achèvement dans notre vie. Ce qu'il a commencé, il va le finir. Et vous savez, il a du plaisir à le faire. Parce qu'il est là, comme le charpentier, il fignole pour finir son œuvre. Quelle promesse extraordinaire. Il veut qu'elle soit belle. Il veut que vous soyez beau et belle. Amen. Vous l'êtes déjà, très bien. Mais Dieu veut encore amener plus loin vos vies. Dieu veut rendre son église belle, magnifique. Et il veut la voir, et veut, au final, il veut se reculer et dire « Waouh, ça c'est du travail bien fait. Ah, je suis fier, je suis tellement réjoui de voir comment mon église est. » Et c'est ce que Dieu veut faire avec son épouse, son église. Jésus-Christ dit dans l'Épître aux Éphésiens, il est dit au chapitre 5 et les versets 25, « Jésus-Christ a aimé l'église et a donné sa vie pour elle. Il a voulu ainsi que l'église appartienne totalement à Dieu. » Après l'avoir purifié par l'eau et par la parole. Il a voulu se présenter à lui-même l'Église dans toute sa beauté, pure et sans défaut, sans tache ni ride, ni aucune autre imperfection. Alors croyons-le, que le Seigneur ne va pas s'arrêter en chemin. Il veut aller au bout et nous rendre encore plus beaux et belles. Et faisons confiance au Seigneur si peut-être dans nos vies, on se dit « Mais ma vie ressemble plus à une étable qu'à un bel hôtel. Ma vie ressemble plus à une grotte que peut-être à un beau bâtiment. » Mais faisons confiance au Seigneur. Et même si nous ne comprenons pas toujours tout ce qui nous arrive, si nous ne comprenons pas toujours ses chemins à lui, c'est lui le charpentier, ce n'est pas nous. C'est lui le charpentier de nos vies. Nous lui avons confié nos vies. Nous avons confié nos cœurs, nos familles, notre travail, toute notre vie. Faisons-lui confiance. Même si nous ne voyons pas peut-être la finalité, nous ne comprenons pas tout, le Seigneur fait une œuvre magnifique et belle dans nos vies. Le Seigneur fait une œuvre magnifique. Et ce qu'il a commencé, il va le finir. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Un jour, quand nous serons là-haut, nous regarderons nos vies, nous regarderons la vie d'un tel ou d'un tel, d'un frère ou d'une sœur, nous regarderons la vie de l'Église et nous dirons « Waouh, c'est beau, je n'avais pas vu. » Et nous serons dans la reconnaissance de voir comment le Seigneur aura travaillé les uns ou les autres. Nous dirons, nous louerons le Seigneur. Nous serons émerveillés de ce que nous ne voyons peut-être pas encore. Nous verrons la touche finale du tableau. Et pour l'éternité, nous serons dans la louange et l'adoration. Je me réjouis de ce jour-là. Je me réjouis. Alors croyons à cette œuvre du Seigneur dans nos vies. Alors ce matin, nous fêtons la naissance du grand charpentier de nos vies. Amen. Ce que nous voulons croire ce matin, proclamer, redire, du grand charpentier de nos vies. Laissons-le travailler nos vies, intervenir dans nos vies, bâtir le plan de notre vie, nous édifier, peut-être construire là où il y a des ruines, réparer là où il y a des brèches, des difficultés, des choses brisées, et laissons-le aller jusqu'au bout dans nos vies. Laissons-le, disons-lui, oui Jésus, tu es le Fils de Dieu, tu es Dieu fait homme, tu es tellement mieux placé que n'importe qui sur cette terre. Tu es unique. Tu es à la fois Dieu et tu es à la fois homme, être humain. Tu peux me comprendre. Mais en même temps, tu as quelque chose d'unique, de puissant que tu peux faire dans ma vie. Alors viens faire ton œuvre parfaite dans ma vie. Amen. Et chantons. Prenons ce chant qui dit « Gloire ».